Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui, on va parler d'un manga très attendu, un manga qui arrive avec des chiffres solides, une communication bien huilée, un lancement en grande pompe, Ichi the Witch aux éditions Kiun. Dans le manga, maintenant, on est habitué hein, à voir des exorcistes, genre des escouades d'intervention, des organisations secrètes, des créatures qui sont super bien classifiées, des gigas menaces de l'enfer, on va traquer des démons, on va chasser des monstres, on va capturer des entités. Le vocabulaire change, les costumes et les personnages évoluent, mais le cœur reste souvent le même, dans un monde bien structuré autour de toute cette tension. Et Ichi the Witch, justement, il s'inscrit pleinement dans cette dynamique. C'est un garçon qui devient sorcière, il doit absorber un magic royal, puis entrer dans une institution qui encadre la magie. On va vous raconter tout ça. Mais Ichi, c'est un chasseur, un tracker, et j'aimerais vous poser une question. Pourquoi on a autant de mangas qui parlent de track ou de chasse?
Bah parce que c'est l'élan vital, c'est soit manger, soit être mangé.
Ouais, je pense qu'il y a un truc un petit peu comme ça, c'est une des premières fonctions, tu vois, genre comment chasser. Et je trouve qu'il y a un truc assez obsédant là-dedans, tu vois, en tant que lecteur ou en tant que spectateur pour des films, de savoir comment moi je le ferais, tu vois, pour me débrouiller dans cette situation, comment je le ferais pour m'en sortir, tu vois, vivre tout simplement.
Bah, je pense que c'est narrativement ce qui est le plus simple pour expliquer la quête d'un personnage aussi. Tu vois, c'est vraiment dans notre histoire, dans notre préhistoire, c'est l'origine même d'un objectif, c'est chasser une bête pour se nourrir. Tu vois.
Eh bien, on va en reparler tout à l'heure, parce que c'est aussi un sujet de Ichi the Witch. En seulement 2 tomes, la série donc pose ses bases. C'est solide, c'est lisible, c'est efficace. Mais est-ce que c'est simplement un shonen bien calibré? Ce soir, on ne va pas juger trop vite, on va analyser, on va décortiquer la mise en place et puis voir les promesses que nous fait Ichi the Witch. Cette semaine, on va peut-être voir donc enfin la différence entre un bon et un mauvais chasseur dans la cinquième de couvre.
On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols.
Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir.
On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre.
Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles.
Oh, les bâtards!
Vous êtes en train d'écouter la cinquième de couvre, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer, aimer les mangas de chasse et de sorcières. Bonjour à tous, Robin, Julie et Cagnard sont avec nous aujourd'hui.
Salut.
Salut.
Vous êtes plutôt chasse ou plutôt sorcellerie?
Sorcellerie, je dirais.
Alors, j'ai jamais chassé personnellement. Ouais. J'ai pêché une fois et ça s'est vraiment pas passé de ouf non plus. Et j'avoue que je n'ai aucune admiration spéciale pour aller chasser un animal.
Moi, je suis plutôt chasse aux sorcières, évidemment. Non, je rigole. Non,
merci.
Je sais pas.
Au moins, quelqu'un me l'a fait. J'ai lancé le truc en me disant, ça va prendre la balle au bon d'emblée. Et personne le fait. J'étais en train de désespérer.
Merci, Robin.
Non, mais effectivement, Robin tue des femmes.
Et des communistes.
Et des communistes.
Si vous nous découvrez seulement maintenant, nous sommes la cinquième de couvre. Le podcast Manga Hebdo depuis 10 ans maintenant. Donc scrollez dans vos applications, il y aura toujours une émission pour vous. Et merci à tous de nous soutenir en écoutant, en partageant, en commentant. Ça compte énormément. Merci beaucoup. Aujourd'hui donc, on se penche sur Ichi the Witch. Et puis la semaine prochaine, vous aurez une libre antenne, puis une petite rediffusion. Parlons donc d'Ichi the Witch. De quoi ça parle? Quel est le résumé de ce manga? On est dans un monde fantastique dans lequel il existe des sorcières et des magiques. Pas des cartes magiques, hein, des magiques M-A-J-I-K. Des sortes d'entités puissantes que seules les femmes dotées de mana peuvent acquérir. Donc, des sorcières. Et ça, grâce à des conditions très très précises et des conditions pour les acquérir, il y en a autant que de magiques. Dans ce monde, il y a aussi Ichi, un garçon élevé en marge du monde, guidé par un instinct de chasseur limite animal. On pourrait presque dire que le danger l'attire, mais un jour il croise donc la route d'Ururo, un magic très puissant que personne n'était censé pouvoir acquérir et contre toute attente, lui, il y parvient. Il bouleverse ainsi l'ordre établi, Ichi devient enfin le premier homme sorcière. Ensuite, il va donc intégrer Mantinelle, une institution entièrement féminine qui encadre, régule et organise la magie. Puis à partir de là, le manga va ne pas se contenter de raconter l'ascension d'un héros. Il va installer un monde avec une magie classifiée, étudiée, surveillée. On découvre aussi donc ces magiques qui ne détruisent pas forcément et tout. Et que les sorcières ne détruisent pas non plus puisqu'elles les absorbent en quelque sorte. pour obtenir leur pouvoir. Et donc dans les deux premiers tomes, on assiste à cette intégration progressive, première mission, première confrontation, découverte des règles de ce monde. Voilà, ça c'est pour le panorama global. Et donc dedans, on a des ingrédients assez implacables, assez évidents. Une fois qu'on l'a lu, on se dit « Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Oui, ça aussi c'est le bon ingrédient. » Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dans la liste des ingrédients? On commence assez vite avec l'acquisition d'Ouro.
Bah, je pense que ça fait vraiment référence à beaucoup de choses qu'on connaît déjà, mais qui ont quand même ce charme d'être présentés sous des atours nouveaux, on va dire. Et en plus, les personnages aussi sont intéressants. Enfin, Ouro, il est quand même bavard, hein, pour un personnage censé être méchant. Je mets des guillemets comme ça. Parce que, évidemment, avec deux tomes, on ne sait pas encore exactement ce que ça va se donner.
Puis il a déjà montré sa version chibi, un peu rigolote, mignonne.
Donc, ah bah, il se transforme très vite en mascotte. Hein. Alors, dark mascotte, mais mascotte quand même, quoi. Ça aussi, ça fait partie de façon des ingrédients qui est plutôt bien intégré. On a les sorcières avec l'espèce d'organisation de sorcières. Là aussi, on est dans des structures et ingrédients qu'on connaît, quoi.
Les commandos spéciaux qui vont en action, ceux qui restent à la base, celles qui restent à la base pour organiser tout ça.
Ceux qui sont pas destinés à se battre, mais qui en fait ont quand même un petit truc.
Un rôle.
Plein de choses expliquées comme ça. Hein.
Je vais te donner une impression un petit peu globale, tu vois.
C'est j'allais vous le demander après. Je voulais d'abord qu'on fasse les ingrédients cagnards. On a aussi tout de suite la première mission avec le requin de glace.
Très très chouette. Vraiment un super épisode. Et puis tu t'es vite dans le bain avec cet épisode. C'est vraiment. Tu sais que tu vas en prendre plein les yeux, quoi.
Et on commence à découvrir 1, 2, 3 Magic et le fameux Magic anti-monde qui a l'air d'être prévu pour être le super antagoniste qui arrive assez vite au tome 2, quoi.
Ah voilà, celui qui ressemble à un humain, quoi, comme dans, comme dans les trucs bien calibrés d'Jump, quoi.
Dès qu'il y a des monstres, il y a de l'humain derrière, de toute façon.
Non mais c'est calibré, c'est je trouve que les ingrédients ont été mis, c'est que tout est connu par cœur, tout est réglé comme du papier à musique et c'est envoyé. Mais du coup, ça fait un manga qui va très vite et dans lequel il va manquer un ingrédient sur les premiers volumes. Le héros n'a pas de drame autour de sa vie pour le moment.
Ah bah...
Non, c'est un enfant sauvage. Et il n'a pas l'air non plus de... Ça n'a pas l'air d'inquiéter plus que ça.
Et même, au-delà de ça, il n'a pas d'objectif, je trouve. Vraiment, il n'a pas d'objectif précis, si ce n'est chasser.
Ouais.
Il veut chasser. Mais tu sais, il n'est pas du tout dans l'idée de « je vais devenir le meilleur chasseur ». C'est vraiment... Il aime chasser, il veut continuer à chasser, mais il n'a pas d'objectif précis de renverser cette société ou quelque chose comme ça.
Oui, puis il chasse même pour... Même pas par rapport à une envie précise. C'est, il chasse parce qu'il considère que c'est sa manière de survivre, parce qu'il chasse en particulier les bestioles qui... Ils lui veulent du mal, tu vois.
Il ne chasse que des bestioles qui ont des envies meurtrières.
Voilà, c'est ça.
Il ne chasse pas pour le loisir ou
pour le plaisir.
Oh, il a l'air d'y prendre un peu de plaisir quand même.
Ah oui, quand
oui
même.
Mais je veux dire, il n'y a pas de cruauté gratuite.
Exacerbée, oui, exactement.
Autour de ça, il y a plutôt une question de nécessité, effectivement, comme disait Robin, de survivre, de savoir se défendre, en fait, face à des dangers. Et moi, je trouve que, c'est peut-être parce que je suis une maman, je trouve que c'est quand même raide de voir que c'est un petit garçon qui a presque grandi tout seul, livré à lui-même dans la nature, quoi.
Ouais, mais comme il a pas l'air de mal le vivre,
oui,
toi tu
bon.
Sens pas ça comme une chose dramatique?
Non, c'est vrai.
Surtout il est intégré dans cette société, ok,
ouais.
Il est chasseur, il est le chasseur du village, donc effectivement il est un petit peu à part, il vit sa vie, mais on n'est pas dans le cas d'un Naruto qui est exclu du village par les autres
habitants. C'est pas misérabiliste, voilà.
En fait, comme t'as dit, ça va vite, donc en fait on a même, on pourrait être attaché à ça, mais on n'a pas les infos. On n'a pas les datas, là. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, on ne sait pas pourquoi il est dans ce village et tout ça. Donc,
bon, avant la data, vos impressions, Cagnard, tu voulais donner ton impression globale sur ce manga?
Oui, en gros, mon impression globale, c'était un peu... Hein, tu vois, quand j'ai lu les deux premiers tomes, je me suis dit, moi, ok. Tu vois, j'ai pris vraiment du plaisir à la lecture, mais je n'ai rien vu qui m'a transporté de fou. Alors, effectivement, tu as raison. Tous les jalons, ils sont bien posés. Les persos sont bien incarnés. Enfin, tout est OK. Le sujet est un peu original. Le fait que c'est un homme qui devient sorcière et tout, donc c'est un peu original, mais ça ne déborde pas non plus. C'est vraiment, bizarrement, le manga OK, par excellence, tu vois. Mais par contre, étant un lecteur assidu de Shonen, j'avoue que je mise pas mal sur la suite pour être surpris. Parce que, effectivement, pour le moment, je suis dans mes petites chaussons. Tu vois, j'ai un plaid, la soirée se passe plutôt bien, j'ai une petite camomille, voilà. On est vraiment au début de l'histoire. Et par contre, je sais qu'il va falloir être un peu plus aguicheur au bout d'un moment.
Bah écoute, je vais t'aguicher parce que moi, je suis avec toi sous le plaid. J'ai presque les mêmes chaussons, j'ai pris une autre couleur, j'ai la même camomille. Hein.
C'est le vieux couple.
On a partagé le sachet.
J'ai fait une théière pour deux, quoi.
Mais ta vision, elle est dramatique, mon pote.
Mais moi, je suis super content.
Même dans cette idée de, voilà, on sort ensemble, c'est nul, quoi. Ce que tu proposes, je sais pas, fais-moi rêver un peu. Dis-moi, vas-y, je vais t'enlever ton plaid, on va partir à l'étranger.
Et justement, pas du tout. Moi, je suis super content d'être sous ce plaid en termes, voilà, on va arrêter l'image.
Stop.
Moi, je vais la continuer perso.
Moi, j'ai vraiment mis dans ta tête, s'il te plaît.
Oui.
Moi, j'ai vraiment, vraiment adoré ces
premiers tomes. T'as envie que je prenne dans mes bras. On est d'accord.
S'il te plaît.
C'est ce qui te manque, là.
Et autant le tome 1, autant le tome 2, autant on parlera de la suite à la toute fin de cette émission. Mais moi, je l'ai déjà lu deux fois, du coup. Je me suis laissé emporter direct. J'ai bien adoré Ichi et j'étais vraiment content de tomber sur ce manga et de le lire enfin en français. En volume, la totale, quoi.
Ouais, bah moi je suis en fait, je vous rejoins un peu, mais après je vais essayer de dissocier ma perception.
Il y aura pas cette place pour lecteur. 3 sous le plaid. Romain,
non, ça,
il n'y
a pas de souci. Je vais pas être dans le plaid, je vais être dans un fauteuil à côté. Non, mais en fait, je vais essayer de dissocier mon rapport, moi personnel, à la lecture que j'ai eue et l'intérêt que je peux trouver au titre aussi, parce que je pense que c'est un titre super intéressant. Ne serait-ce que ça, on en parlera peut-être après sur déjà l'accueil qu'il a eu au Japon et ce qui va très probablement arriver en France, c'est que c'est un blockbuster annoncé. Et pourquoi, ça, c'est super intéressant d'analyser ça. Après, si je dois vraiment parler de mon ressenti de lecteur, je trouvais ça plaisant, ok, comme dirait Cagnard. C'est, comme tu as dit, c'est calibré. Les chara-design, je reconnais qu'ils sont vraiment super. Franchement, c'est un manga qui a vraiment beaucoup de charme à ce niveau-là, graphiquement. Mais après, voilà, moi, je pense que je suis plus la cible de ça, quoi. Je trouve ça vraiment très naïf, très bébé, quoi. Les personnages, les enjeux m'intéressent pas beaucoup, je dois reconnaître. Mais voilà, après, c'est ça. Il faut aussi se dire que quand on se considère comme des spécialistes de l'analyse du manga, il faut aussi se départir de juste ce ressenti qu'on peut avoir sur une lecture et l'intérêt qu'elle peut avoir.
Bah justement, toi, Julie, c'est tes enfants qui ont absolument adoré ce manga.
Exactement. En fait, j'ai mis un temps infini à récupérer les livres parce qu'elles les ont eus dans les mains, elles ne les ont pas lâchés. Et donc, c'était la bataille pour les tirer de leurs mains. Et elles étaient là, genre, non,
j'ai un podcast à préparer.
Donc, elles ont vraiment adoré. Et quand moi, j'ai pu enfin lire les livres, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de charme, comme dit Robin. Mais le constat est que, on n'est plus la cible. Mais il a d'excellentes qualités. Moi, j'aime beaucoup les personnages. Il y en a certains qui ressortent vraiment, qui ont vraiment beaucoup de charisme. Le héros est vraiment très attachant. Voilà, il a cette naïveté, cette joie, en fait, d'être toujours enthousiaste et de partir à l'aventure. Donc oui, on est... je veux dire, comme disait Kenya, peut-être que pour le moment, on connaît, en fait, ce paysage, mais rien indique que ça va être le même que ce que nous on a connu jusqu'à présent. Donc je suis très contente qu'on ait enfin ce accès effectivement à ces livres. Et je trouve que le tome 2, c'est limite si on n'a pas envie d'avoir tout de suite la suite. Et bon, mes enfants veulent déjà la suite.
Et si moi j'ai pas vu beaucoup de dramaturgie dans le début, j'ai vu énormément de choses qui m'ont fait rire. Ce manga, il m'a fait bien rire à plein d'endroits. Et souvent, ça désamorce en fait pas mal d'actions. Et il y a même certains personnages qui ont 2, 3, voire 4 visages.
C'est exactement ce qui m'a un petit peu posé question, tu vois, pendant la lecture. Si je peux garder un défaut que j'ai trouvé un petit peu problématique, tu vois, en termes d'appréciation de la fluidité de narration, c'est que parfois, j'ai trouvé que le manga, il était trop chargé en humour. Alors attention, je dis pas du tout que le manga n'est pas drôle. En fait, au contraire, je trouve que l'auteur ou l'autrice, là où j'en ai aucune idée, les deux autrices, elles ont une très bonne capacité à manier l'humour absurde. Et ça, c'est précieux, en vrai, tu vois. Mais c'est plus que, à force de vouloir le placer partout, j'ai trouvé qu'à un moment, ça alourdissait l'ambiance, mais voire la compréhension de l'univers. Tu vois, je prends une scène qu'il y a dans le tome 2 où le héros débarque à l'école de magie et compagnie, où on est censé comprendre un petit peu comment ce monde est en train de fonctionner. Bah en fait, il y a des blagues vraiment à chaque case. Je dis pas à chaque page, je dis chaque case, avec que des visages chibi et compagnie. Et je trouve qu'au bout d'un moment, l'humour qui est omniprésent, moi, en fait, ça pèse un peu sur ma manière d'appréhender les différents moments dramatiques qu'il va avoir, tu vois. Enfin, comment je peux prendre au sérieux un manga qui lui-même ne se prend pas au sérieux? C'est-à-dire que depuis le début, que ça soit les méchants, que ça soit les monstres, que ça soit l'univers, tout est un peu sujet à drôlerie sans que ça soit un manga absurde, sans que ça soit full un manga parodique.
Oui, c'est pas Machel non plus, quoi.
C'est pas Machel. Et du coup, j'ai vraiment eu ce truc-là à un moment de me dire, mais en fait, je vais pas trop savoir quand. Enfin, c'est même pas que je vais pas savoir, c'est plus quand vous allez essayer de passer du côté dramatique. Moi, c'est peut-être là que je vais lâcher, du coup, parce qu'en fait, depuis le début, vous me montrez que rien n'a d'importance. Et du coup, j'avoue que c'est un truc qui m'a un petit peu fait chier dans ces deux premiers tomes. Alors, je trouve en plus que c'est une qualité du titre. Il est drôle, ça fonctionne. Mais par contre, un peu trop. Et un peu trop surtout pour la compréhension de l'univers, tu vois.
C'est Monsieur Camomille qui parle, hein, je pense.
Ouais, alors que c'est marrant, parce que moi, je vois la même chose, mais comme un point fort. C'est-à-dire que moi, c'est une rythmique que le manga impose et qu'il m'impose. Et je fais, ah ben tiens, j'avais pas l'habitude d'aimer, de m'habituer à ce genre de rythmique. Bah, je te suis, vas-y, je vais dedans. Et chez moi, c'est devenu un moment que j'attends presque, en fait. Le moment de changement de ton où je me dis, oui. Oh là, oui, là ils vont nous préparer un truc. Et à l'inverse, quand justement, t'as pas la pointe d'humour, ça me surprend et ainsi de suite.
Oui, mais en soi, il n'est pas original là-dessus. Tu vois, sur justement ce changement de ton, parce que malgré ce que je dis au niveau humour, je vois quand même des vrais changements de ton radicaux pour montrer que le manga, il passe dans un mode un petit peu plus sérieux. D'ailleurs, il y a un truc qui était abordé dans ses premiers tomes et que je trouvais hyper intéressant, c'était de voir le côté un peu plus sombre du côté des monstres, où littéralement, ils disent que on était sur Terre avant vous. Et du coup, pourquoi on est censé perdre face à vous? Et je trouvais que c'était hyper intéressant. Et ça aussi, ils le prennent de manière très légère. Alors pour le moment, moi c'est vraiment... c'est un peu des Pokémon, tu vois, tu t'acquiers un monstre.
C'est vraiment ça, en fait.
Ouais. Il n'est pas OK pour être avec toi, mais voilà, ça va créer une dynamique entre le perso.
Une fois qu'il sera dans sa bulle magique, ça ira.
Voilà, exactement. Mais par contre, je vois vraiment beaucoup d'espoir dans ce traitement. Donc si ça n'a pas été fait dans ces deux premiers tomes, ce truc du traitement des monstres, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont vécu aussi, je pense que dans les prochains tomes, ça va beaucoup parler de ça, parce que je pense pas que les autrices mettent ça par hasard, tu vois, dans le manga.
Je pense pas non plus. Après, souvent dans les premiers tomes, les auteurs mettent beaucoup de choses, les auteurs en général mettent beaucoup de choses qu'ils laissent de côté au fur et à mesure pour aller un peu plus vite dans le récit. Donc ça peut dépendre aussi du nombre de tomes qu'on leur laisse, etc.
Mais tu sais, t'as raison, tout est effectivement très vite dédramatisé.
Ouais.
Que ça soit le monstre, que ça soit l'entrée à l'école.
Et alors, il y a un truc qu'on dédramatise très vite, c'est le héros, c'est Ichi, qui n'a pas une morale comme les autres. Ichi, sa morale, c'est œil pour œil, dent pour dent. Alors, dans le côté chasse, dans la partie chasse, déjà d'une, il est excité par la chasse, Ichi, et vraiment, il fait « tu veux me tuer, je vais te tuer ». C'est tout, c'est ma règle. C'est étonnant quand même. Dramatiquement parlant, moralement parlant.
En vrai, moi, ça m'a même limite un peu choqué, tu vois, parce que je lis cette phrase et je suis un petit peu dans l'idée de c'est pas fou comme message, tu sais, à lâcher à la jeunesse et compagnie. Genre, on t'a fait du mal, t'as fait du mal en réponse.
Oui, mais c'est pas des humains qui l'ont en face de lui.
Oui, mais même ça, je trouve ça hyper, problématique, en fait, parce que moi, je suis vraiment dans un délire de œil pour œil, dent pour dent, et pour moi, c'est pas spécialement une bonne morale à appliquer. Mais
c'est pour ça qu'on s'en est départi depuis
dans les sociétés humaines. Mais en même temps, en fait, ça, c'est le ressenti que j'ai eu vraiment dès le début, parce que c'est une espèce de mantra qui répète beaucoup le héros dans le manga, de dire
la mort pour la mort.
Voilà, la mort pour la mort et tout. Et en fait, derrière, je me suis dit, mais en fait, ça va juste être sa construction de héros de shonen, de va falloir qu'il évolue là-dessus, parce que ce mantra n'a pas de raison d'être, et en fait je le trouve pas très moral. Et c'est marrant parce qu'au début je me suis trouvé un peu vieux con, tu vois, en me disant bah, mais enfin les jeunes gens ne devraient pas lire ce genre de mantra.
Qui êtes-vous monsieur?
Mais en même temps derrière voilà, je me suis dit ouais, mais en fait si on part de ce principe là il y a beaucoup de trucs à construire avec ce perso derrière, tu vois, pour le faire changer d'avis sur ce sujet.
Et avant de te donner la parole, Robin, il y a aussi deux points sur lui. Il a une sorte de radar à hostilité, ce qui est assez pratique, et vraiment une excitation face au danger. C'est des points aussi importants qui caractérisent Ichi, en tout cas au début.
Ouais, ouais. Et moi, j'avoue, cette nature de chasseur, je trouve que c'est un truc assez intéressant à la base. Enfin, je trouve que justement, c'est un concept qui est traité de manière très frontale, là où en fait c'est un truc finalement qui habite, on en parlera peut-être plus tard, d'autres personnages de shonen qu'on a pu lire et tout, mais là c'est vraiment son mantra comme tu dis, donc ça c'est peut-être une des originalités. Et je pense que comme dit Cagnard, ça peut amener des choses très intéressantes en termes de point de vue moral sur, par exemple, bah, en gros effectivement ce mantra il l'a appliqué pour des créatures sauvages qui lui veulent du mal, mais là on parle des magiques. En fait, comme a dit Cagnard, on ne sait pas trop d'où ils viennent. Ils ont une conscience malgré tout. Donc, tu vois, c'est pas des créatures sauvages, c'est pas des animaux, quoi. Donc, peut-être que, en fait, les raisons de leurs actes sont ailleurs et tout. Et du coup, bah là, le mantra d'Ichi ne marche plus, parce que si tu fais ça à une créature consciente, c'est pas la même chose que faire ça à un animal.
Et puis,
qui agit par instinct, tu vois.
Ils l'ont dit. On était là les premiers. Voilà. Je trouve que mine de rien, c'est ça veut dire quelque chose quand
même.
Mais après,
je trouve que là, pour l'instant, à la lecture des deux premiers tomes, moi j'ai lu que les deux premiers tomes, ça me fait plus penser à un artifice narratif qui donne une nature au héros et qui lui donne surtout un mode d'action. Parce qu'on a dit, c'est un manga qui va vite et il faut en fait expliquer pourquoi le héros il va faire ça ou ça. Et là pour l'instant, comme on n'a pas de background, comme on n'a pas de backstory, on sait pas d'où il vient, on sait pas pourquoi il est devenu comme il est, bah en fait c'est, pour l'instant c'est vraiment un espèce de mode, ouais, de truc narratif pour expliquer pourquoi il va faire les choses, quoi. Et vraiment à chaque fois, c'est, toutes ses actions sont mues par le fait que c'est sa nature de chasseur qui lui dit de faire ça. La première fois qu'il attaque Uroro et qu'il l'absorbe, c'est vraiment lui littéralement pour ça. Il dit ah bah j'ai senti que t'étais violent et que t'étais dangereux, donc je t'ai tué parce que c'est mon mantra qui me dit de faire ça. Mais en fait oui d'accord, mais pourquoi à la base tu étais comme ça? Et je trouve que pour l'instant c'est pas un truc qui incarne sa personnalité, et moi c'est vrai que c'est un truc qui me gêne un peu. C'est que j'ai parlé du charme graphique du héros, je trouve que c'est un personnage qui a beaucoup de charme graphique, mais pour le moment en termes de personnalité je le trouve très lisse et je comprends pas en fait qui c'est, et je comprends pas pourquoi il fait ce qu'il fait. Donc
un
ça,
peu
ça
comme
me gêne un peu, quoi.
Tanjiro, non? Ce côté au début un peu lisse, mais ouais, graphiquement...
Ouais.
Ouais,
mais Tanjiro, sa backstory, elle est quand même plus claire. Ouais.
Ah bah, sa backstory, on l'a. C'est le début du manga, effectivement.
Tanjiro, il a sa sœur.
Ouais, tu sais pourquoi il fait les choses. Ouais.
Tanjiro, le personnage principal de Demon Slayer. Ouais. On a envie aussi de vite de comparer, si on dit chasseur, bah, Hunter.
Oui, et puis d'ailleurs, tu parlais donc de radar à hostilité, mais pour quiconque a lu Hunter, on sait que... Quand tu deviens un bon chasseur, tu es capable en fait de ressentir cette hostilité, de savoir à quel moment tes proies vont relâcher leur attention et ainsi de suite. Parce que il y a aussi tout ce délire sur le fait que bah, être un bon chasseur, c'est attendre finalement le bon moment pour s'emparer de la proie que tu vises. Et moi, je pense qu'il y a en fait peut-être une incompréhension entre l'idée de tuer, parce que lui, il tue des animaux, effectivement, au début de l'histoire.
Pour se nourrir, en plus, il y a vraiment un truc assez noble.
Pour rendre service à la communauté où il vit, etc. Mais il y a aussi le fait qu'en fait, certains magiques ne meurent pas. En fait, Uroro, il est absorbé. En fait, il y a aussi cette idée d'attraper, de prendre possession.
Ouais, il l'a capturé.
En fait, se superpose avec l'idée de tuer,
oui,
tu vois, symboliquement
final,
une créature.
Oui, mais au final,
donc
c'est quand même
difficile.
Oui, mais ce qui motive Ichi, c'est de tuer. C'est ça son truc.
Bah, je sais
non,
pas.
Non, c'est
trop,
pas forcément
fait.
Tuer. Bah,
je pense que c'est attraper,
c'est
vraiment.
Ouais,
ouais,
je pense qu'il y a un vrai truc de la chasse.
Ouais, mais alors, bah, là, pour le coup, moi, je trouve pas ça suffisamment clair, parce que son mantra, c'est la mort pour la mort. Donc, c'est vraiment lui. Moi, je pense que dans sa tête, même si à la fin, le résultat, c'est pas qu'il l'a tué, puisque comme tu dis, il en a fait une petite gemme et tout, c'était dans sa tête quand même, c'était cette créature veut me tuer, je la tue, quoi. Tu vois, c'est. Donc,
Ah oui, non, mais ça, on est d'accord.
Oui, mais parce que jusqu'à présent, il s'est confronté finalement à des êtres organiques qui mouraient quand il les attaquait. Et que quand il se sentait lui-même attaqué. Tu
oui,
vois
mais
ce
le
que
résultat ne change pas la motivation du personnage. Tu
ouais,
vois,
je
ne
sais pas.
C'est...
Ouais, non,
peut-être
non,
que ça va le changer.
C'est un débat.
Peut-être
ouvert.
Que ça va le changer.
Dans Hunter, Gon, il n'a pas cette motivation-là, mais il pourrait faire la même.
Ah mais tu rigoles, moi c'est vraiment genre le premier écho que j'ai eu en lisant Hit the Wood, vraiment je m'y attendais pas, tu vois. Mais vraiment, j'ai pensé à Hunter x Hunter tout de suite. En plus, en répétant à foison le terme chasseur dans tout le dans les deux tomes, tu vois, j'ai tout de suite tiqué. Et quand on voit, tu sais, ce côté instinct du héros, tu sais, ce côté sixième sens, forcément on pense à Gon, c'est un enfant sauvage qui connaît mal le monde extérieur, mais qui est pas non plus un fou l'enfant sauvage, tu vois, qui a quand même grandi dans une communauté. Le lien pour moi, il se faisait naturellement. Par contre, là où il diffère de Gon, je le sens dangereux en fait, ce perso, dès le début de la série. En opposition à Gon, où au début, enfin moi, Gon, je trouvais que c'était trop mignon, sa candeur et compagnie. Et ça nous a pris quand même une dizaine, vingtaine de tomes avant de nous dire. Ah ok, en fait, sa naïveté, elle est mignonne, pas de souci, mais elle peut vraiment devenir dangereuse. Et j'aime toujours rappeler ça par rapport à Luffy aussi, tu vois, son côté hyper obstiné. Ah ouais, c'est drôle, hein, y a pas de souci, c'est cool. Mais il y a des moments où tu te rends compte, là en fait, tu commences à faire tu commences à être problématique en fait à cause de ton obstination. Et là, pour le coup, j'ai trouvé que c'est arrivé très vite, genre en fait, très vite, je l'ai trouvé inquiétant, ce héros, tu vois. Justement, avec cette morale œil pour œil, dent pour dent, quoi.
Dès le début, tu pourrais le sentir borderline, alors que Gon a la fissure où tu te dis, ok, t'as craqué, c'est vraiment très loin dans le manga.
Ah bah oui.
Après, c'est aussi que Gon, on n'avait pas le background de lecture de tout ce qu'on a, tu vois, on n'avait pas encore d'archétypes qui lui ressemblaient. Moi, je pense que c'est la pureté, le truc. C'est un truc qui est très propre au héros de shonen, c'est le fait qu'il soit pur. Et la pureté, c'est aussi un. Enfin, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre.
Bien sûr,
le fait
d'être pur. Donc, est aussi pur quelque part.
Exactement. Et justement, moi, c'est peut-être le point où le titre me fascine le plus, tu vois, c'est qu'est-ce que vous allez faire de cette pureté qui, je pense, je ne suis pas le seul à l'avoir vu de. Ouais, ça peut être un peu dangereux, là, ton histoire de pureté, tu vois. Et je pense que, pour le coup, c'est vraiment l'aspect que je préfère du manga. C'est que ce héros, je le trouve inquiétant, en fait, dès le début.
Ouais, et puis en fait, il va se retrouver avec aussi un deuxième archétype, finalement, qui est celui du héros qui doit cohabiter avec une entité autre. Alors, moi, je pense à Naruto, mais dans Jujutsu Kaisen, on a exactement le même schéma également. Et c'est surtout que, au fur et à mesure, j'ai l'impression que les entités sont plus ou moins sombres, plus ou moins. Ururo est-il plus proche d'un Kurama que
bah oui, mais tu vois, Sukuna, ça typiquement, Ururo est censé être un boss de fin et il est déjà plutôt sympathique au final, tu vois.
Ouais, mais donc je trouve aussi que, enfin, tu vois, ça ouvre plein de portes et donc il y a aussi cette possibilité d'enchaîner et de finalement changer les parcours qu'on pense être déjà connus.
Des ingrédients qu'on connaît, mais mélangés différemment.
Moi, les portes que j'ai voulu ouvrir, que j'ai ouvert en fait sans faire exprès, je sais pas, ça m'est venu aussi comme ça, mais parce qu'on est dans l'époque, ils partagent les pages.
On dirait un témoignage d'un violeur, là, en fait.
Ils partagent les pages du Jump avec Kagurabachi.
Oui.
Et donc, j'ai pas pu m'empêcher aussi de mettre en parallèle Kagurabachi et Ichi the Witch. Et effectivement, il y a plein d'endroits où ça diffère, mais surtout, le seul point commun presque que j'ai réussi à trouver entre les deux, si ce n'est le magazine de prépub, c'est qu'il y a des sorciers et des sorcières qui ne sont ni des sorciers ni vraiment des sorcières.
Ouais, c'est
la
le côté
magie.
Marrant. Est-ce que au final c'est pas la suite logique, tu vois, de notre époque, tu sais, très pop culture et compagnie, où au final tu finis par mixer une sorcière exorciste, tu vois, et bon, au bout d'un moment, vas-y, on s'en fout, on a compris c'est quoi le principe, tu vois, mais sans lui donner un titre à proprement parler. Et puis là, en plus, je t'avoue que oui, le côté sorcière m'a l'air tellement insignifiant sur ce bouquin pour le moment, hein. Je sais pas ce qui va devenir après.
Oui, elles ont des pouvoirs, hein, pour c'est tout, quoi.
Elles arrivent assez tard, moi j'ai trouvé, parce que finalement on se concentre sur lui et après finalement elles arrivent très très
oui,
elles
sont
expédiées dans leur présentation en mode, ouais, quand il y a des problèmes elles arrivent,
tu vois, genre, ce voilà. Truc, c'est très tout. Humour en plus, tu vois, où oui. On va vas-y, on va faire des persos en SD, d'où
Je me demande si c'est pas un truc aussi lié au fait que aujourd'hui on sait que le Jump c'est vachement plus lu par des filles que à l'époque, la grande époque du shonen, quoi. Et en fait, les sorcières, ça grave la cote chez les petites filles et chez les jeunes filles, du coup.
Ça donc, la cote partout.
Ouais, mais et donc, du coup, je me demande si c'est pas aussi un calcul un peu, tu vois, marketing sur, quand même, c'est une figure. Et au final, comme a dit Cagnard, on en fait ce qu'on veut derrière. Donc,
bah, ils bossent l'univers, oui.
Utilisons juste les chapeaux pointus. On sait que ça va plaire au public qui va y aller pour ça. Et puis après, bon, bah.
Sachant que pour le coup, je trouve que l'aspect sorcière, il est quand même un peu artificiel dans ce titre. Et au contraire, ça me plaît, cet aspect artificiel, tu vois. Le seul moment où je vois des sorcières, c'est quand le héros change de, tu sais, oui, costume, tu vois. Et je le trouve ridicule dans son costume de sorcière, tu vois.
Non, il est aussi utilisé pour changer de mode quand il veut utiliser Ouroro, je pense.
Oui, voilà. Oui. Mais moi, depuis qu'il est sorti, et je pense que je sais pas si c'est voulu, à quel point ça a été réfléchi ou pas, mais donc le titre à l'international c'est Ichi the Witch, et pendant longtemps Ichi the, ça, moi ça m'appelait Ichi the Killer, tu vois, et là on a un killer, enfin je veux dire, il est quand même très et je trouvais que c'est complètement méta.
J'y avais pas du tout pensé,
mais c'est une espèce de filiation très étirée et très loin,
mais Ichi the Killer, il a des missions, il doit tuer des mecs. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans Ichi the Witch.
Après, je crois que je vais vraiment casser vos délires. Je pense que c'est juste pour le côté allitération Ichi the Witch.
Oui, complètement. C'est oui, oui. Et puis, on reviendra sur l'explication aussi du titre.
Parce que moi, j'avais Ichigo aussi, sinon. Pourquoi la chasse fascine-t-elle autant? C'est la question que je vous ai posée dans l'intro. Vous avez répondu très brièvement. C'est le moment de développer. Pourquoi on va autant produire déjà de mangas au Japon avec un côté track, un côté chasse? Pourquoi est-ce que ça fascine autant nous, en tant que lecteurs, à chaque fois on fait « Ah, mais c'est trop bien
!» Je pense que déjà, d'une, c'est pas si souvent que ça. Je pense que c'est un aspect qui est souvent fondu un petit peu dans les codes des personnages classiques de Neketsu, on va dire. Mais, en vrai, à part Hunter x Hunter, il n'y a pas de manga qui parle de chasse, alors qu'il y a des mangas qui parlent de tout.
Enfin, ils ne viennent pas jusque chez nous, en fait.
Non, c'est mais ça. Tu vois, même Toriko, non, mais si tu vois, typiquement Toriko, c'est un...
Oui, c'est vrai.
C'est
oui.
un ersatz d'Hunter.
Oui, mais c'est
Hunter gourmet.
Track, c'est c'est la même chose, tu vois. Dans Jujutsu Kaisen, il doit traquer.
Oui, il y a la track.
Oui, mais justement, pour le coup, il y a un truc très différent entre la track urbaine et la track naturelle.
Oh, le puriste.
Non, mais vraiment, je trouve qu'il y a un truc très différent. C'est la différence entre un détective privé et un chasseur, tu vois.
Ouais, pour moi, je les mets en même temps, tu vois, comme un Pokémon, il chasse. Ils chassent
oui,
pour les attraper.
Oui, mais je pense que
tous.
Je pense que ce qui, on va reprendre, je reprends un peu l'exemple de Hunter parce que je pense que c'est un cas pratique assez intéressant de la manière dont la chasse est mise en scène, en plus dans le titre du manga. Mais je pense que Cagnard, il a raison dans le sens où je pense qu'effectivement de la traque urbaine, on en voit beaucoup parce que c'est, en fait, le shonen, c'est aussi souvent plonger les adolescents dans un univers qu'ils connaissent, donc ça ressemble.
Puis
plus
c'est code polar aussi.
Mais je pense que la mise en scène de la chasse, d'un point de vue vraiment naturaliste, tu vois vraiment l'homme en,
ouais,
en
l'homme contre en, la vois, bête
et puis même en contrôle de son environnement, qui connaît tout la façon de réagir des
prédateurs,
bêtes et tout.
Littéralement,
je pense que ça c'est un truc qui ramène à un truc beaucoup plus primitif, et ça amène aussi des images vachement plus évocatrices. Et moi honnêtement, je trouve que dans Ichi the Witch, tu vois, il y a un écho que j'ai ressenti à Hunter immédiat. C'est le moment où il chasse son premier monstre, c'est le renard électrique là.
Tu Pokémon. Sais
il l'attrape parce que la condition pour le battre, c'est de choper la petite boule qu'il a autour du cou. Et vraiment, enfin, si personne n'a vu, que c'est vraiment l'écho de la scène de Gon qui chope la plaque 44 à Hisoka. C'est vraiment, mais la mise en scène du truc est littéralement la même, avec l'explication derrière de ouais, mais en fait les animaux ils font comme ça, donc du coup j'ai réagi comme les animaux font.
Faut attendre qu'il aille se ressourcer.
Et ça, je pense qu'il y a une forme de fascination primitive qui est beaucoup plus efficace que juste voir effectivement une organisation qui va traquer des gens dans une ville. C'est là, on est sur un terrain beaucoup moins, je sais pas comment dire, efficace narrativement, quoi.
Moi, je pense aussi qu'il y a une dimension culturelle qu'on a tendance à oublier, parce que nous, on profite juste de la lecture de ce manga. Mais parce qu'au Japon, il y a beaucoup plus, finalement, de... Comment dire, la chasse est encouragée, même quand t'es enfant. On a tous vu dans les mangas les enfants qui chassent les scarabées, qui chassent les insectes. Et il y a aussi... en ce moment, ils ont un problème avec les ours. Donc, il y a une espèce de regain d'intérêt. Parce qu'il n'y a pas que les ours. Les ours, ils sont dangereux. Mais il y a plein d'animaux sauvages en fait qui sont en train de d'envahir certaines zones limitrophes où il n'y a plus trop d'humains et du coup ils sont emmerdés. Il y a la vie sauvage qui revient à certains endroits et il n'y avait pas de contrôle. Et là où je pense que, tu vois, là Robin a évoqué Hunter, mais moi j'ai pensé aussi à certaines scènes de Vinland Saga où il se retrouve face à des ours. Enfin, il y a aussi quand même cette volonté de voir l'homme se confronter à la nature qui, donc en français moyen, c'est donne Miyazaki. Voilà, enfin, je caricature à fond.
La chasse, l'homme, la bête, la nature.
Ouais, en fait, c'est beaucoup plus diversifié que ça.
Et au niveau du Japon, pour le coup, la chasse, elle est perçue comment ? Tu vois, de manière générale, alors, est-ce que c'est un petit peu comme en France, où, d'un point de vue personnel, je trouve que la chasse, c'est un truc qui a une tradition véritable, mais qui, en même temps, une tradition qui devrait un petit peu changer.
En fait, il y a une charge politique qui n'est pas la même. Ça,
ouais,
c'est
voilà,
sûr.
c'est ça qui m'intéressait de savoir. Quelle est la perception des Japonais sur la chasse ?
Je pense que c'est vraiment des gens qui sont dans des milieux ruraux, et on sait très bien qu'en ce moment, ce sont des populations qui sont en train de diminuer de façon drastique, de vieillir dans des villages qui s'abandonnent, enfin qui sont abandonnés, qui deviennent des villages fantômes.
Oh, trop bien, c'est-à-dire les animaux, ils reprennent le pouvoir.
C'est cannibale, hein. Enfin, aussi, il y a tout cet aspect de survivre à tout prix, donc prendre la vie d'autres animaux. Alors, j'espère pas d'autres gens, hein, s'il vous plaît. Mais
pour le moment.
Mais il y a aussi, je pense que tout le délire autour du mythe du zombie aussi. Où des fois il y a des chasseurs en fait qui prennent le lead dans certains groupes de survivants, etc. Ça fait un peu écho aussi à cette image là de une personne qui en fait est complètement en possession de ses moyens pour affronter une nature hostile.
On revient sur les mangas de Trek, ou en tout cas que moi je vais mettre dans cet ordre d'idées là. Et par exemple, je vais vraiment reprendre l'exemple de Jujutsu Kaisen, où pour moi il y a une base d'ADN qui est très très commune. Chainsaw Man, le traitement est radicalement différent, mais je vois un ADN, des branches d'ADN communes. Hunter, évidemment, on en a parlé. Tsugai, j'y vois là aussi encore pas mal d'allèles, c'est ça qu'on dit pour,
pour l'ADN.
Ouais, en commun, enfin, tu vois, même si les traitements sont différents, je vois quand même un ADN de manga de track. Un sentiment qui est pas novateur en voyant Ichi, mais en même temps au final l'environnement familier, moi je l'ai senti un peu différent, mais tu vois, il y a un côté manga de track de chasse qui
ouais,
a pas ailleurs.
Après moi je pense c'est aussi ce que j'y ai vu, c'est des mangas où la chasse a un côté aussi récompense immédiate, et moi je pense effectivement à Pokémon où on
le
en a
gamer.
Parlé mais Cardcaptor c'est quoi aussi, tu vois, genre juste chasser une créature, la capturer et obtenir son pouvoir pour pouvoir s'en servir plus tard, tu vois, c'est un truc en fait ça marche parce qu'il y a un côté il y a un peu un côté collection aussi, tu vois, tu te dis ça va être quoi les prochains, puis à un moment donné on en voit une dans l'histoire, elle dit il en a capturé 16, donc c'est à dire qu'elle a potentiellement 16 pouvoirs différents, on sait pas lesquels c'est et tout, et donc ça forcément ça stimule l'imaginaire du lecteur aussi.
Au final moi ce que je note le plus c'est que je vois pour un manga aussi stéréotypé sur le principe de la sorcière, moi je vois un manga d'exorciste. Hein.
Mais tu vois des exorcistes partout, toi.
Oui, c'est peut-être mon problème. Maladie. Peut-être qu'une carrière loupée, tu vois, je sais pas.
T'es un chasseur d'exorcistes.
Mais en même temps, pour moi, ça fait partie du lore de manga d'exorciste actuel. Alors, tu peux l'avoir à plein de sauces. Hein. Je pense que, tu sais, on est tellement à une ère d'exorciste que parfois, on le voit même pas. Je veux dire, je prends Chainsaw. Bon, c'est une organisation gouvernementale, mais enfin, ils sont littéralement en train d'exorciser des démons, oui, tu vois. Si tu prends Jujutsu Kaisen, ils sont en train d'exorciser. C'est juste qu'ils sont en kimono, ils ont des katanas, mais sinon on est là-dedans.
C'est vraiment dit littéralement dans Jujutsu.
Tu prends Demon Slayer, salut les exorcistes samouraïs, tu vois. c'est la même chose. Et du coup, je me suis dit que peut-être on était passé par l'ère des tueurs professionnels, Assassination Classroom, Sakamoto Days et compagnie. Et peut-être que c'est l'ère des exorcistes tout court, et en fait en y réfléchissant je me suis dit mais j'ai l'impression que manga et exorcisme c'est genre l'amour fou depuis des années en fait, vraiment c'est un truc genre tu remodèles un petit peu le truc de l'exorciste, mais là moi perso j'ai pas vu de sorcière hein, du
non
tout.
Mais je vais remplacer exactement tous les mots où à chaque fois que tu utilises exorcisme par tracker, Chainsaw Man ça traque, Jujutsu on traque, Demon Slayer on traque. Finalement, en fait, on peut mettre plein d'autres mots au hasard.
Qu'est-ce que je dis, c'était énervant. Ok, ça va, c'est bon, on est ok.
Non, mais c'est ouais, c'est. Je pense qu'il y a un côté, comme a dit Cagnard, il y a un peu un côté aussi. Je pense que l'exorcisme, ça marche parce qu'aussi, bon là, je prends des références plus occidentales, mais la mythologie grecque, c'est un peu ça aussi. C'est les dieux qui emmènent. Il y a des créatures qui sèment le chaos et les dieux, ils emmènent des gens pour éradiquer les créatures et rétablir l'ordre, tu vois. Et en fait. Là, c'est un peu ça, t'exorcises le monde de créatures qui foutent le bordel, quoi. Et donc, je pense que c'est une mécanique qui marche bien. Et en vrai, moi, je trouve ça cool aussi de se dire que bah, un magazine comme le Jump, c'est bien aussi qu'ils reviennent des fois à des fondamentaux comme ça, tu vois, de titres. Bah, j'ai dit naïf et t'es un peu bébé au début, mais en fait, c'est aussi revenir aux fondamentaux de leur lectorat d'origine, parce que c'est vrai que c'est quand même ça, à la base, le Jump, c'est attirer des nouveaux lecteurs et, les, ouais. Et les, tu vois, leur faire lire des aventures.
Ouais, c'est limite nous le problème en tant que lecteur.
Et je me dis que peut-être, effectivement, là, on commence à avoir un peu fait le tour aussi de ces shonen pour adultes, tu sais, pour les vieux lecteurs de shonen et qui aiment bien avoir la relecture méta, tu vois, genre Chainsaw Man, on trouve ça génial, mais je pense que les gamins de 10 ans d'aujourd'hui, ouais. Ils s'en foutent de Chainsaw Man, c'est pas ça qu'ils veulent lire.
Oh, je suis
trop...
pas sûr.
Alors, je pense qu'ils aiment bien parce qu'il y a un côté un peu
transgressif,
un peu sanglant, transgressif, mais je pense qu'il y a un truc méta qui nous fait plaisir. Et qui, en fait, eux, ils veulent peut-être revenir à un truc plus pur, justement. Et moi, je trouve ça cool aussi de se dire, même si moi, c'est pas ma cam à 100%, je trouve ça cool aussi. Déjà, ça m'étonne pas trop que finalement, ce titre marche tellement. Et en même temps, je suis assez content parce que je me dis aussi bah, que c'est la preuve aussi d'un magazine qui n'a pas abandonné son, tu vois, son état d'esprit d'origine et son essence, quoi.
Tu voulais parler de chasseuses aussi.
Bah oui, parce que oui, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de chasseurs garçons, vu
on
que
Ichi
était garçon et c'est Jump. Mais en fait, en réfléchissant bah, tous ensemble sur ce titre, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de chasseuses. Et donc, il y a dans Bright Story, il y a Amir, il y a Emma dans Promised Neverland, il y a quand même Maka qui chasse des souls, des âmes, et Hukai. Enfin, elles sont très nombreuses aussi et moi j'ai récemment relu Golden Kamuy et puis bah Sherpa elle est quand même la chasseuse en titre et elle a en plus ce rapport vraiment très fort avec bah, le l'animisme et la nature et je pense que c'est enfin moi je chercherais de ce côté-là en fait pour l'importance de ce thème.
Et je voulais aussi vous poser une question. C'est au niveau du regard dans ce manga et ça concerne les personnages féminins comme Ichi. J'ai remarqué qu'ils ont les yeux et le regard très désabusés, les cernes marquées. J'ai eu ce sentiment-là et Descaras, à chaque fois quand elle regarde mal les gens, mais elle a un regard super particulier que j'ai pas l'impression d'avoir vu dans d'autres mangas.
Bah, elle a surtout les sourcils tout le temps foncés.
Ouais.
Et du coup,
oui, mais
renfrogner, mais ouais. Même la façon dont sont dessinés les yeux,
oui,
je trouve qu'il y a un truc,
oui.
Et je vais appeler ça l'héritage attaque des titans.
Ah ouais, ça c'est bien, vas-y, développe.
Le côté, c'est-à-dire que bah, dans l'attaque des titans, ils ont tous des cernes jusqu'au genou, tu vois qu'ils sont pas du tout en train de kiffer la vie, en train de kiffer le monde. Et dans Ichi the Witch, il y a vraiment des passages comme ça. C'est ce qui me fait penser qu'on peut faire face à des moments plus tard, en tout cas à des scènes bien plus dramatiques, parce qu'ils ont vraiment des regards parfois marqués qui nous indiqueraient qu'ils ont vécu des choses un peu plus dramatiques que ce qu'on voit. Et en plus, ça permet de faire la transition encore plus forte avec les moments humoristiques.
Ouais, je pense que moi, c'est un truc qui, je trouve, participe au charme visuel que je disais aussi. Et c'est aussi ce qui fait une identité au titre. C'est que, en fait, l'autrice, la dessinatrice surtout, elle s'attache vraiment à ce que chaque personnage ait une forme d'œil, tu vois, même comment l'œil est dessiné en lui-même. C'est pas que la forme de l'œil, c'est vraiment même la pupille et le... Et vraiment, Ichi, il a pas un regard, tu sais, normalement, les héros de shonen, ils ont souvent des grosses pupilles noires et c'est tout, tu vois. Et lui, il a vraiment une forme d'iris bizarre, tu vois, que t'as pas trop l'habitude de voir. Moi, je dirais plutôt, est-ce que c'est pas l'héritage Naruto, tu vois, qui a montré que des persos avec des pupilles spéciales...
Ça avait tout un panel.
Voilà. Non, mais tu vois, on en a parlé avec Max, justement, on disait le regard de la folie.
Ouais, c'est ça.
C'est ce truc, c'est le regard de la folie de...
Et Descaras, je pense qu'elle peut être complètement tarée.
Et ah oui, complètement.
Descaras, ça, le regard de la folie.
Oui,
c'est
oui.
Limite en elle que je mets le plus de folie, tu vois.
Parlons design, justement, et parlons même regard et même féminisation du regard, puisque ce sont deux autrices hein, qui sont à l'origine de Ichi the Witch, Osamu Nishi et Shiro Usazaki. On peut dire que là, elle nous propose quelque chose, graphiquement en tout cas, qu'on n'a pas forcément eu l'habitude de voir tant que ça dans le Jump. Elles prennent les canons, mais tu vois, ce côté regard, déjà, j'ai l'impression qu'il y a un step, je sais pas.
Bah, en fait, disons que là, je vais parler vraiment de l'ensemble des deux tomes. Moi, quand je les ai lus, j'ai vraiment vu une espèce d'esthétique qui, jusqu'à présent, n'était portée que par deux titres dans le Jump. C'est Jojo's Bizarre Adventure et Yu-Gi-Oh! Puisque Yu-Gi-Oh! Revient, on peut en reparler. Et parce que c'est vraiment, moi, ce que j'appelle... Enfin, ça m'a fait penser à ce qu'on appelle l'esthétique camp.
Camp, pas clamp.
Non, pas clamp.
Camp,
même
comme
si,
un camp.
Ouais, camp. Parce
c'est
que tu poses, en fait. Tu campes ta position. Et c'est en fait un terme qui est beaucoup utilisé dans les milieux gays. Enfin, parce que ça fait partie de cette tendance du voguing, du drag. Et donc, c'est lié à la fois à des choses, des esthétiques très exubérantes, très théâtrales et complètement démesurées et toujours aussi doublé d'une certaine ironie. Et tout à l'heure, on parlait du fameux la première mission avec ce requin de glace qui, en fait, est un personnage de drag, en fait. Il est complètement dans le regardez-moi, je suis magnifique. Et donc, là, j'ai une citation. À un moment, elle dit « Décorez-moi avec un flow de ouf, je vais être fabuleuse, stylée et merveilleuse. » Après, tu t'étonnes que mes enfants aient adoré. Mais donc, et je trouve que c'est vraiment réjouissant parce que ça fait partie en fait d'un esthétisme qui est très dynamique et qui peut aussi puiser dans plein de choses différentes et être toujours dans quelque chose de très coloré, très visuel, très exubérant. Et moi, j'aime bien.
Avec beaucoup de précisions sur les vêtements aussi. Il y a des choses que on parlait du costume de Ichi, que j'avais pas eu l'impression non plus de voir beaucoup dans ce type de manga.
Après non, je trouve que
de vêtements stylés, il y en a dans d'autres mangas, mais je veux dire pas avec ce style.
Ah. Après dans Ichi, il est pas respecté spécialement en tant que ça, tu vois. Tu sens que à chaque fois qu'il a utilisé ce déguisement, on va dire, c'est à une fin narrative précise. Mais quand tu regardes, il se bat pas tout le temps avec ce costume, loin de là même.
Ah,
tu
non,
le
non,
vois
bien sûr.
Que deux fois avec ce costume.
Mais juste vraiment pour parler de dessin uniquement, ça m'a évoqué en tout cas des choses que j'avais pas l'habitude de voir, même le fait de voir Descaras en talons aiguilles.
Ouais, de glace.
De glace.
C'est super. Enfin, c'est vraiment dans le détail et je trouve ça super. Mais en fait, en termes de chara-design, je crois que c'est Robin qui en a parlé, c'est très varié. Je trouve qu'il y a vraiment énormément de styles qui sont présents et ce qui montre aussi tout ce qu'elles ont appris du manga et tout ce qu'elles veulent en mettre dans leur série. Mais moi, il y en a une particulièrement qui s'appelle Shirabedona. Donc, et en fait, Shirabedu, ça veut dire vérifier. Et évidemment, c'est celle qui est un peu scientifique, tu vois.
L'investigatrice.
Ouais. Qui réfléchit et tout. Et donc, quand j'ai vu son personnage, j'ai pensé à des mangas assez vieux maintenant, qui sont ceux de Junko Mizuno. Alors, je ne sais pas si certains s'en souviennent.
Moi,
par
oui.
Exemple, ouais, merci. Elle avait fait Cinderella, enfin Cendrillon, Pure Trends. Et en fait, c'était une esthétique...
Disponible aux éditions IMHO, d'ailleurs.
Ah, merci. Mais en fait, c'était vraiment des... Comment dire? Quelque chose... Le design était hyper rond, très kawaii, mais c'était une revisite gore, une revisite horrifique de ces contes occidentaux. Et ça m'a fait penser à cet univers-là tout de suite. Et c'était... Encore une fois, quelque chose de maximaliste chez Mizuno. Tous les détails étaient passés à la moulinette de son regard, de dire « Ok, il faut que ça soit kawaii, mais complètement répugnant. » et là, bon, c'est pas répugnant, mais ça fait référence à ce genre d'esthétique, quoi.
Et je pense à un truc que tu as dit précédemment, tu parlais de Jojo's Bizarre Adventure. Moi, j'avais pas vu le lien de Jojo's à ce niveau-là, mais je l'ai vu par rapport au magic et à la manière dont ils s'en servent et dont c'est représenté dans le manga, où on voit la sorcière qui se tient debout et derrière en grand on a le magic. Ouais, ça va totalement évoquer les stands dans Jojo's Bizarre Adventure et c'est pas étonnant du coup qu'on puisse y voir d'autres filiations dans ce style. Mais contrairement à Jojo's, il y a beaucoup, même principalement, de personnages féminins dans Ichi the Witch.
Et oui, c'est aussi le drame. Non mais c'est intéressant de voir que ce garçon Donc qui est donc comme on disait tout à l'heure le lointain cousin de Gon, de Naruto, d'être l'enfant sauvage qui va être récupéré par une société déjà structurée mais qui est une société de femmes et elles vont l'apprivoiser ou bien lui va s'intégrer finalement.
Ouais,
dans
c'est un
ce...
mix des deux au final c'est
voilà,
un mix des deux.
Bah, pour l'instant on a que deux tomes hein. Donc ce que j'aime bien c'est le fait que lui il a pas l'air de se poser trop de questions quoi.
Pas du tout.
Non et il dit ok et il arrive et effectivement elles sont nombreuses, elles ont tous les caractères du monde, il y en a qui sont colériques, il y en a qui sont badass, il y en a qui, enfin, elles rigolent pas quoi.
Et donc c'est dans un monde où pour être sorcière il faut absolument être une femme puisque seules les femmes possèdent du mana. Ichi arrive à être un homme sorcière au début il fait ok et après une fois que c'est lancé il fait bonjour je suis un homme sorcière.
Oui bah il s'en vante même, c'est ouais. Un truc qu'il veut défendre.
Ça, c'est moi, bah, j'adore.
Et d'ailleurs je sais pas si c'est moi qui fais une erreur mais est-ce qu'il y a un autre personnage masculin dans les deux premiers tomes?
Dans les deux premiers tomes non.
J'ai pas l'impression hein. Tom mais 4. Du coup c'est le... bah ouais non mais ça veut dire que ça va être aussi intéressant d'avoir des hommes qui vont rentrer dans cet univers. Et je trouve que c'est tout aussi intéressant d'avoir justement cette notion de... ça, c'est vraiment un truc pour les filles. Hein, les sorcières, tu sais, jamais tu pourras devenir une sorcière, mon fils. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant à quel point le sujet n'est pas abordé. En fait, le sujet est un élément, c'est un élément du scénario. Ah bah, c'est pas une directive du scénario.
C'est là où, en fait, je pense que le titre VO nous en apprend un peu plus. Parce que, moi, j'ai bien aimé, parce que donc, le titre en japonais, c'est Madan no Ichi. Et en fait, Madan, c'est un mot qu'elles ont construit, qu'elles ont formé, qui n'est pas si utilisé ou peut-être même qui n'existait pas avant qu'elles l'utilisent. Mais donc, il est composé donc, sur le modèle de Majo. Majo, ça veut dire la femme magique, c'est la sorcière. Et donc là, c'est l'homme, le garçon magique. Parce qu'ils ont gardé donc Ma,
est-ce que ça veut dire le garçon femme magique?
Non, il n'y a pas la femme. Et on remplace le kanji de la femme, Jo, par d'un qui veut dire garçon. Donc c'est vraiment et c'est ce qui a écrit sur le rabat du tome 1, c'est-à-dire la scénariste dit comment ça il n'y avait pas d'équivalent masculin pour le mot sorcière en japonais. Et donc elles ont
ils
décidé.
Ils n'avaient pas sorcier.
En fait c'est Marotsukai ou bien Majusoshi.
Ouais,
enfin il y a différents
pas forcément dire
mage,
sorcier.
Voilà.
Oui.
Et enfin là Majo c'est vraiment la sorcière, enfin la femme magique.
Mais c'est trop marrant. Ça.
Et donc là ça devient le garçon magique et c'est aussi super de se dire mais oui les garçons vous aussi vous avez des pouvoirs magiques.
Vous aussi vous êtes magiques les garçons.
Trop dur à traduire et finalement homme sorcière ça
oui,
sonne trop bien.
Oui, c'est très
bien. La sonorité des deux mots ensemble, je trouve ça colle super bien. T'as pas entendu Robin à ce sujet ?
Non, mais en fait, je suis un peu comme Cagnard, c'est-à-dire que ce qui m'embête un peu, c'est que, en fait, je trouve que ça fait partie des trucs originaux du titre. Tu vois, je pense que c'est même sur ça que, Julie parlait du titre original. Ils le vendent là-dessus, tu vois, sur ce concept d'avoir un garçon sortir, quoi. Et en fait, je trouve que pour le moment, moi, ça m'intéresse vachement ce truc. Mais je trouve que c'est très survolé, quoi. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est un truc qui est dit. Genre, c'est les sorcières parce qu'elles ont du mana, voilà, c'est comme ça. Et puis, c'est le premier, dis donc, c'est le premier homme. Et en plus, alors pourquoi c'est le premier homme? Tout simplement parce que le magic le plus puissant que les femmes ne peuvent pas battre, la condition pour le battre, c'est qu'il faut que ce soit un homme qui le batte. Et
je me dis, c'est vrai que je suis d'accord, pour le moment, c'est un peu facile.
T'as quand même un truc complètement artificiel qui amène ce truc. Et en fait, une fois que ça arrive, là, je rejoins aussi ce que t'as dit, Max, c'est vraiment pas traité, quoi. C'est-à-dire, ok, c'est un garçon chez les filles sorcières. Et est-ce que ça amène juste des petits quiproquos un peu rigolos sur quand il va faire ses costumes, il y a la costumière qui dit « Ah, c'est la première fois que je suis un costume
oui,
pour un garçon » et tout.
Il nous manque beaucoup d'éléments sur l'univers.
Et je pense
encore.
Que ça, c'est c'est évident que ces trucs vont être traités plus tard. Voilà, quoi. Mais je me suis dit, là, il y a un peu un équilibre entre... la recette, le carcan jump qui t'oblige un peu à respecter des trucs, on a parlé de tout ça, plus les concepts originaux que tu veux mettre. Et là, pour l'instant, moi, sur les deux tomes, je trouve que la sauce, elle prend un peu doucement. Et en vrai, je suis assez curieux de. Et c'est pas pour ça que j'ai pas aimé. Je trouve que, il y a une vraie efficacité et tout qui fait que le titre est bien. Mais j'ai envie d'en voir plus là-dessus, quoi. Sur à la fois, c'est qui Ichi et c'est quoi, en fait, pour. Ça correspond à quoi pour toi d'être un garçon dans cet univers féminin? Parce que pour l'instant, c'est. Alors peut-être que, d'ailleurs, le fait que ce soit pas un sujet, ça peut être un sujet en soi. C'est intéressant aussi de se dire, vous croyez que ça va être quelque chose d'important, alors qu'en fait, non, ça l'est pas. Et c'est peut-être comme ça qu'il faut voir les rapports hommes-femmes et tout, mais pour l'instant, c'est vrai que je suis un peu perdu en me disant, mais qu'est-ce qu'on fait de ça ? Pour l'instant, je trouve que ça sert pas à grand-chose, mais voilà.
Bah, c'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec Robin sur le fait de... C'est bien de l'annoncer, tu sais, le premier homme sorcière, tu vois. Mais bon, on n'a pas ce problème-là en langue française, tu vois, de dire, bah oui, t'es un sorcier. Je vois pas vraiment le souci, mais vas-y, ok. Et je trouve que il a raison dans le fait de... Soit t'en fais un truc, vraiment. Mais là, il va falloir développer un petit peu l'univers, comprendre comment ça fonctionne. Et là, pour le moment, il n'y a pas le truc. En vrai, moi, s'il devait vendre le manga, défendre le manga, tu vois, s'il vendait un poster ou autre, bah, je dirais typiquement que je me concentrerais sur l'aspect chasseur. Pas du tout sur l'aspect sorcier, garçon sorcier.
Ah bah, t'as besoin de pouvoir magique et de mana pour pouvoir atteindre ces magiques.
Non, je parle de pitch. Je parle pas d'honnêteté. Je parle de pitch.
Oui, mais là, on est à la fin de l'émission. C'est le moment de spoiler, Cagnard. Pas de pitcher ou de vendre des posters. Nous, Cagnard et moi, pas vous.
Nous sommes comme les hommes sans mana, tu vois, on est vraiment...
Vous êtes des hommes. À l'heure actuelle, vous êtes des hommes.
Nous, c'est on clair. A lu la suite de notre petit plaid.
J'adore vos chapeaux aussi.
Et ouais, nous, on en sait plus sur le Magic Anti-Monde. Alors attention, spoiler alerte. On va spoiler un peu tome 3, un peu tome 3. Voilà, on va spoiler un peu
bah,
la suite.
Tome 3 complet.
Oui, oui. Non, mais moi, j'ai lu le 4 aussi. Mais voilà, donc... Une fois que t'arrives à la fin, donc si vous voulez couper maintenant, merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine, c'était chouette, super. Maintenant, on vous spoil. Ok.
Allez, salut.
Le Magic Anti-Monde, le fight qui arrive à la fin du tome 2, il prend place vraiment dans le tome 3 et ça envoie sévère quand même.
Bah, c'est ça qui est ultra bizarre, tu vois. Parce que moi, je lis les deux premiers tomes. Je fais un premier retour à Maxime, tu vois. Et je sais que toi, t'es un gros kiffeur de Hitchy. Et tu sais, j'essaie même de te convaincre, tu vois, en disant non, mais je l'ai pas aimé. C'est juste que là, c'est ok. Et tu t'as vraiment insisté pour me dire non, mais. Ouais, quelques chapitres, même pas, lis pas le 33 forcément, mais quelques chapitres. Et c'est vrai que quand j'ai lu le tome 3, et là, bah en fait, ça c'est censé être dans les deux premiers tomes parce que t'as un moment qui est hyper. En fait, il y a quasi tout. En fait, toutes les failles qu'on avait.
Le gros combat contre le Magic Anti-Monde, le transnéantisseur total.
Le Magic Anti-Monde. Eh, salut, Clancy Man, le démon flingue, tu vois.
My Hero Academia aussi.
Non, je suis pas d'accord. Mais...
Donc, t'as l'antagoniste qui est quand même super sérieux. T'as le ton qui peut s'assombrir à tout moment. T'as les enjeux.
T'as le héros qui devient de plus en plus chasseur instinct, il est en ultra instinct, tu vois, vraiment, de je vais perdre, mais je m'en fous, en fait, je veux essayer.
Et surtout, t'as les enjeux, t'as le fil rouge, alors on vous dévoile pas non plus trop le fil rouge, et trop les... mais en fait, c'est au tome 3.
Mais c'est ça qui est, enfin, je trouve que c'est vraiment genre une faute professionnelle, tu vois, de bah, ces éléments-là, mettez-les dans les deux premiers, parce que
mais tu comprends maintenant pourquoi Kihoon sort déjà le 1 et le 2 d'affilée.
Ouais, et je trouve qu'en vrai, ils sont en galère un peu, tu vois.
Il a fallu que sortent un, deux, trois d'affilée, mais c'est mais trop galère, ça.
Ça ne s'est jamais fait. Peut-être qu'un jour, un éditeur sortira les trois premiers thèmes. Ah, mais c'est au thème 4 que ça commence.
Je pense que ça va parce qu'à la fin du 2, il y a quand même le méchant qui arrive, ouais. Tu vois. Donc là, il y a un truc où t'es quand même accroché. En fait, t'as un peu envie de te dire, OK, ouais, qu'est-ce qui se passe maintenant qu'il est arrivé, lui?
L'ambition du titre, scénaristiquement parlant, en tout cas pour nous, elle arrive vraiment au 3, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est le problème.
En fait, moi, s'il n'y avait pas l'arrivée du méchant à la fin du 2, je te dirais que même c'était une erreur de sortir les deux premiers parce que le 2, je le trouve vachement plus poussif que le premier. Tu vois, le premier, au moins, il a l'avantage d'aller vite et de mettre plein de trucs d'un coup. Peut-être trop vite, mais au moins, c'est hyper généreux, quoi. Et le 2, je trouve que ça commence à être des petites histoires un peu, tu vois, un peu poussives, quoi.
Ouais, et en tu fait, vois ce mec qui arrive.
Et en fait, voilà. Et heureusement, il y a la fin et il y a lui qui arrive. Et là, tu dis, OK, bon, c'est bon. J'ai capté ce qui va se passer. Enfin, je pense capter ce qui va se passer. Et là, ça va être cool.
Mais c'est marrant parce que je sais pas si c'est nous ou si c'est la production actuelle, mais de plus en plus on a des difficultés à deviner ce que deviennent les titres à partir des tomes 1 et 2, quoi.
Mais c'est ça qui est marrant.
Et c'est gros titre du Jump en plus.
Oui, je veux dire, il manque pas grand chose. Il manque quoi, 3-4 chapitres peut-être, tu vois, supplémentaires. Je veux dire, mais ça c'est censé être dans vos deux premiers tomes là. Si vous voulez que Robin termine le tome 2 en disant vas-y, j'ai envie de lire la suite. Bah, faut le mettre, ça, par contre, les
Après,
enfants.
Ils veulent peut-être pas que Robin.
Oui, alors, c'est ça, en fait.
Vu que je suis pas le gouvernement japonais a un gros problème avec Robin, ça, oui, c'est en fait.
Peut-être que mais... c'est pas la cible.
Et vraiment, en plus, ouais. c'est un truc que je déteste faire, tu vois. Genre, non, mais attendez, le tome 3, hein, vous allez voir, ça démarre pour de vrai.
Mais après, je pense que c'est aussi ce truc de la promesse dont parle Max. C'est un truc qui est un peu devenu un truc attendu. Maintenant, il faut que les gens aient une promesse, tu vois, quand ils achètent un titre. Mais. Là, je fais peut-être le vieux con, mais nous, quand on avait moins de shonen et qu'on avait moins de culture shonen, on s'en foutait de savoir ce qui allait se passer. On se laissait porter un peu aussi par tu vois, la nouveauté. C'était nouveau, donc de toute façon, on se dit waouh, mais qu'est-ce qui va bien se passer ? Ça va être trop cool, tu vois. Et là, maintenant, le fait de forcément vendre une promesse, bah, je trouve que ça casse peut-être presque un peu la manière de penser les séries. Mais bon.
Écoute, moi, j'ai des cobayes à la maison et en fait, elles n'ont pas du tout.
Ouais, voilà, tu vois, c'est ça.
Elles veulent juste et ça, connaître la suite. Voilà. Elles n'ont pas besoin que l'histoire se déploie. Elles veulent juste profiter c'est ça. À
mais
l'instant
du,
T.
Du coup, elles n'ont pas lu les premiers chapitres du tome 3.
Bah non, pas encore.
Vas-y, et c'est ça, mort. Elles ne savent pas ce qui arrive.
Bah non, mais elles ont hâte de pouvoir
mais ça
le
va
lire.
Être trop cool de, d'avoir leur réaction.
Et,
tu vois.
Et ça, tu vois, ça rejoint peut-être ce que je disais tout à l'heure sur revenir aux fondamentaux du Jump. Tu vois, c'est un peu ça aussi, de se dire peut-être qu'au bout d'un moment, le cahier des charges, c'est un truc qui peut aussi casser la dynamique et le vrai plaisir pur de lire un truc parce qu'on aime les persos et on aime l'univers.
Ouais,
et tout.
Puis il faut aussi se souvenir qu'à la base, le Shonen Jump, il n'est pas destiné à nous. Bah voilà, il n'est pas destiné à des lecteurs de 35, 40 piges. Tu vois, en vrai, c'est pas ça.
Moi, je crois que secrètement, il m'est destiné.
Non, il t'est destiné à toi. Mais ça, c'est Tezuka qui te l'a dit à l'époque.
C'est vrai.
Personnellement.
Je vais faire un magazine, c'est pour toi, Maxime. Ça s'appellera Psyrène, tu verras.
Alors attention, Tezuka n'a jamais fait le Jump. Enfin, bref.
Si, Tezuka a écrit Psyrène.
Tout est faux.
Ouais.
Oui, pas les dessins, ouais, il n'a pas fait le dessin. Mais c'est lui qui a écrit Psyrène.
L'anachronique Agnard.
Et il a fait. Il est revenu aussi.
Donc. Ichi the Witch, c'est aux éditions Kihun au Japon. Ça a fait un carton avec plus d'un million d'exemplaires écoulés sur les 6 premiers tomes. Ça a gagné des prix, ça a été nommé dans des prix. Kihun nous le met partout. À la télé, on a des pubs. Dans le métro, on a des pubs. Dans le bus,
bah,
y a
on
des
a
pubs.
Même eu des retours d'auditeurs qui étaient en
ouais.
province.
Ouais.
Ouais,
j'allais dire, en ouais. province, il y a des pubs.
Ouais, ça doit pas se dire, mais...
On regarde YouTube, il y a des pubs. Bref,
ah, oui,
ils
putain,
ont mis le paquet.
La vidéo de Rebe Deter, là... J'avoue, la pub était drôle quand même.
Donc voilà,
enfin, drôle parce qu'elle était nulle. Mais...
Le tome 1 a été tiré à plus de 100 000 exemplaires, donc grosse com. C'est un manga qui est lancé très très fort, donc c'est qu'il compte forcément dessus. Donc c'est que eux, j'imagine, ont lu aussi un peu la suite. Et ils savent surtout que ça se vend au Japon et que forcément, il y a moyen que ça puisse aussi prendre en France. Ça s'appelle donc Ichi the Witch. C'est signé Osamu Nishi et Shiro Usazaki. Et le mot de la fin de cette émission est pour, attention, Julie.
Oh, merci. Bah, en fait, moi, je suis très contente que, en tout cas, au Japon, c'est un grand succès et que bah, j'espère que ça va être un grand succès en France parce que c'est vraiment une série qui est nouvelle, qui montre aussi que, bah, voilà, ce que ça donne, la féminisation de cette profession de mangaka et comment on peut en voir les fruits en 2026. Donc, peut-être, c'est là aussi on voit que bah, la France et le Japon n'ont pas les mêmes problématiques vis-à-vis de leur lectorat, vis-à-vis des horizons d'attente, etc. Mais pour dire que non, c'est très bien de voir, bah, y a du frais en fait. Et nous, on est peut-être moins sur le devant de la scène, mais il y a des gens qui vont en profiter et c'est très bien.
Merci à tous d'avoir écouté cette émission consacrée à Ichi the Witch et à la traque et à la chasse dans les mangas. On ne saura toujours pas qu'est-ce qui est un bon chasseur et qu'est-ce qui est un mauvais
mais
chasseur.
Vas-y, en vrai, j'ai vraiment envie d'une émission de chasseur. Hein. Pour le coup, ouais.
On refera cette émission.
Je sais que tu t'en fous, mais
oui,
regarde-moi
non, mais si.
Au moins quand je te
oui,
parle,
oui,
Maxime.
Oui, bien sûr,
Cagnard, s'il te plaît,
tout
regarde-moi.
À fait, oui, oui.
Regarde-moi.
À la semaine prochaine pour une libre antenne spéciale vacances, spéciale vous avez la parole. Et puis dans deux semaines, on vous mettra une petite rediffusion pour nous-mêmes partir en vacances. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et à la semaine prochaine. Ciao, salut.
On part toujours en vacances ensemble.
Avec le plaid.